RRB, 16h-19h, le tout info.
Et oui, il est 17h45, c'est l'heure de faire le point sur l'actualité avec Mickaël Juneski et toute l'équipe de la rédaction pour Info Soir.
Le budget de la province Nord ajusté, la collectivité est impactée par une réduction globale de 560 millions de francs de dotation alloués par la Nouvelle-Calédonie. La lettre au président de la République des loyalistes, ils font une mise au point avant le prochain rendez-vous de discussion prévu au mois de janvier à Paris. Pas de retour en arrière envisageable après les difficiles équilibres trouvés. 250 000 touristes par an sur le territoire à l'horizon 2032, c'est l'objectif du plan de relance du secteur présenté aujourd'hui pour refaire de la Nouvelle-Calédonie une destination attractive. Une offre attendue dans les prochaines semaines pour la reprise de KNS, l'usine du Nord pourrait être reprise par un groupe chinois. Pour que Noël soit une fête pour tous, première distribution de cadeaux dans le cadre de l'opération Au cœur de Noël avec RRB. Plus d'une centaine d'enfants ont participé à un goûter de Noël dans les locaux de la société Saint-Vincent-de-Paul. Pour que la fête ne tue pas la fête, la gendarmerie et les forces de l'ordre relancent les campagnes de prévention pour appeler les automobilistes à faire preuve de prudence sur nos routes. Le sport du karting avec le jeune Raphaël Gilles qui gagne une épreuve en Australie. Il a remporté ce week-end une course d'endurance à Melbourne. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir pour tous savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Avant de développer tous ces titres, la fin d'un imbroglio juridico-institutionnel à la province des îles. Les conseillers sont donc convoqués le 5 janvier prochain pour élire leur nouveau président, Jean-François Baudin.
La crise à la présidence de la province des îles est née de la condamnation de Jacques Lallier en 2024. Alors qu'il occupait le siège de la présidence, Jacques Lallier avait été condamné dans une affaire de favoritisme à 2 ans d'inéligibilité assortie d'une exécution provisoire. Cette exécution provisoire lui avait été notifiée et le 27 décembre 2024, il y a un an, des élections organisées à la province avaient conduit à l'élection de Mathias Oineux à la présidence. Mais Jacques Lallier, qui contestait cette décision, a introduit un recours devant le Conseil d'État qui a rendu sa décision le 5 décembre dernier. Elle stipule que le membre de l'Assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa réclamation. Le Conseil d'État indique ainsi clairement que le recours de Jacques Lallier a entraîné la suspension de sa condamnation et donc de son inéligibilité. En clair, il n'y aurait pas dû avoir d'élection pour lui nommer un successeur. Depuis, c'est le flou pour savoir qui occupe le siège de président de l'Assemblée de la province des îles. Mais le doute sera levé le 5 janvier prochain puisque les conseillers sont convoqués pour une séance au cours de laquelle ils devront élire non seulement le président de l'Assemblée de la province des îles, mais aussi les 3 vice-présidents de l'institution.
Les élus de la province Nord étaient réunis ce matin pour la dernière assemblée de province de l'année. 20 dossiers étaient à l'ordre du jour. Parmi eux, Léo Fichou, des délibérations liées au fonctionnement de la collectivité et aux projets en cours sur le territoire de la province Nord, mais aussi et surtout des délibérations budgétaires avec la décision modificative numéro 4 du budget 2025.
Oui, une délibération adoptée à l'unanimité. Le budget de cette année est impacté par une baisse des dotations de la Nouvelle-Calédonie, 560 millions de francs de moins que prévu, 511 millions pour le fonctionnement, 50 millions pour l'équipement. Pour rester à l'équilibre, la province Nord a revu ses prévisions. Le budget global diminue ainsi de 295 millions de francs pour atteindre 45,3 milliards. La province Nord bénéficiera d'une aide de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du dispositif de solidarité républicaine. 164 millions de francs attribués pour 2025 qui seront consommés en 2026. Valentine Eurisouquet, deuxième vice-présidente de la province Nord.
C'est un bon budget, c'est un budget qui est malheureusement en baisse, hein, comme dans toute collectivité. L'avantage qu'on a, c'est de pouvoir faire des délibérations modificatives lorsqu'il faudrait faire des réajustements. Et là, l'avantage qu'on a, c'est cette solidarité républicaine qui tombe à point pour qu'on puisse boucler ce budget 2025 en toute facilité. La province Nord bénéficie à peu près d'un montant de 160 millions qui va être réparti entre les actions de la jeunesse, mais également les cantines scolaires.
À noter que si ces crédits ne sont pas utilisés en 2026, ils devront être restitués à la Nouvelle-Calédonie. Autre point abordé lors de cette dernière séance de l'Assemblée de la province Nord, les recommandations de la Chambre territoriale des comptes pour l'année 2023. Wilfried Weiss, maire de Coumac, s'est montré préoccupé, estimant que rien n'avance, je cite, notamment sur l'offre de soins et la réorganisation des urgences.
Février 2025, on faisait une réunion à Coumac avec la province, avec les maires, avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et on nous annonçait un audit qui allait se faire rapidement pour revoir l'offre de soins, pour revoir le schéma des urgences, etc. Les mois passent, on va arriver en février 2026 et on n'a toujours pas avancé. Donc l'idée, c'est que là, j'ai interpellé la province pour leur demander si nous, on ne pouvait pas commencer déjà à travailler, hein, notamment sur l'offre de soins, sur le schéma des urgences, de façon à anticiper un petit peu le travail qui va venir et ne pas continuer à attendre.
Qu'est-ce que vous espérez? J'imagine des soignants, plus de soignants, la réouverture des urgences permanentes?
Ben, au moins la réouverture des urgences permanentes, puisque aujourd'hui, on a eu des décès à Koumac devant l'hôpital. C'est inadmissible, surtout aujourd'hui.
Wilfried Weiss qui a rappelé la nécessité pour l'ensemble des acteurs, y compris le CHN, de se mobiliser de nouveau et de relancer les recrutements de personnel soignant. On notera que l'ensemble des délibérations à l'ordre du jour a finalement été adopté à l'unanimité. Paul Naoutine a clôturé la séance en rappelant le calendrier à venir. La commission des finances se réunira le 30 décembre en amont du débat d'orientation budgétaire 2026 qui est prévu le 28 janvier. Les élus sont également convoqués le 7 janvier pour la première assemblée de la province Nord de l'année 2026.
Actualité institutionnelle encore avec les élus du Congrès qui se retrouveront demain à 8h30 boulevard Vauban pour une séance publique. À l'ordre du jour, l'examen de deux projets de loi du pays, dont un qui est intitulé « Pour une meilleure connectivité en Nouvelle-Calédonie ». Jean-François Baudin.
Oui, un texte qui prévoit entre autres, et pour faire simple, l'ouverture à la concurrence des opérateurs satellitaires en Calédonie. Une ouverture qui fait vivement réagir les syndicats de l'OPT, l'opérateur historique. En début d'après-midi, l'UTCFE-CGC a rencontré la presse pour tirer la sonnette d'alarme à la veille de l'examen du texte. Virginie Barrault, déléguée syndicale UTCFE-CGC à l'OPT.
Ce projet de loi n'est pas totalement abouti. En fait, il propose de protéger l'opérateur historique et dans un même temps, il propose à l'opérateur satellitaire d'opérer librement. En réalité, l'OPT ne sera pas protégé. Ce texte va acter une ouverture totale, frontale et brutale à la concurrence et actera donc des conséquences qui n'auront pas été totalement étudiées et anticipées. Ce texte ne porte pas ses promesses pour le consommateur. Et je tiens ça d'une étude réalisée par le cabinet DME qui travaille pour le gouvernement depuis 2008, qui a révélé que ça serait une grosse perte pour le consommateur. En 5 ans, le consommateur gagnerait en pouvoir d'achat 1,8 milliard, mais en contrepartie, 7,4 milliards qu'il faudra payer d'impôts pour subventionner l'opérateur historique. On actera la fin de l'OPT.
Le syndicat n'est pas opposé à ce que la Calédonie bénéficie des avancées technologiques offertes par les opérateurs satellitaires, mais il est opposé à une ouverture à la concurrence sauvage de ces opérateurs, et plus particulièrement Starlink. On retrouve Virginie Barrault.
Il y a aujourd'hui une technologie qui existe et nous voulons la défendre. La défendre à travers un modèle de partenariat entre l'OPT et un opérateur satellitaire, comme ça se fait en Polynésie française, où l'OPT Polynésie française a signé un partenariat avec l'opérateur satellitaire européen OneWeb. Et donc ce partenariat, en effet, permet à l'opérateur historique de fournir des services à ses consommateurs via un opérateur satellitaire. Et cette solution-là, en plus, elle sécurise les emplois, sécurise les recettes et elle est génératrice de revenus parce que l'opérateur historique pourra entretenir les antennes relais de l'opérateur satellitaire OneWeb. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant et c'est bien cette solution-là que nous invitons les élus à réfléchir sur cette solution-là.
Des propos recueillis par Lionel Sabot. J'ajoute que demain, au Congrès, les élus examineront également un projet de loi du pays portant réaffectation provisoire de la taxe sur l'électricité due par les distributeurs pour contribuer au financement du système électrique. Les élus examineront également 3 projets de délibération.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
La maîtrise des dépenses en faveur de la relance économique, c'est ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire examiné aujourd'hui par les membres du gouvernement. Il a été adopté à l'unanimité, Charlotte Coulson.
Il ne s'agit pas de voter le budget, mais bien d'identifier les orientations budgétaires de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2026. Les élus se sont montrés prudents pour l'élaborer, avec une croissance des recettes fiscales estimée à 1% et une progression de l'emploi estimée à 2%. La collectivité a déjà réalisé 60 71 milliards d'économies depuis 3 ans. Et l'assiette de répartition, c'est-à-dire le budget dédié aux communes et aux provinces, est stabilisée à 104 milliards de francs. Cette assiette était de 98 milliards en 2024. Les économies se poursuivent. Le budget se structurera autour de 4 priorités, détaillées par Christopher Gigès, le membre en charge de l'économie, du budget, des finances et des comptes sociaux.
La première priorité, une exemplarité en matière de gestion des dépenses publiques avec des économies sur la masse salariale avec la suppression de 200 postes, le fait de passer de 27 à 18 établissements publics, de 22 à 13 directions de la Nouvelle-Calédonie, de réduire les frais de mission. Et ces économies, on les réoriente notamment sur de la relance de l'économie calédonienne, sur le fait de pouvoir transformer notre modèle en investissant dans l'e-santé, dans la simplification administrative, mais également en investissant sur la jeunesse avec soutien aux ligues sportives, aux associations, mais également à la et à la formation professionnelle.
Le financement des comptes sociaux ne figure pas dans ce débat d'orientation budgétaire. Le RUAM est en déficit de 15 milliards de francs et la Caisse des retraites de 8 milliards. Mais le gouvernement compte sur la dotation supplémentaire accordée par l'État pour renflouer les caisses. Les élus, en concertation avec les acteurs institutionnels et les formations politiques, ont envoyé lundi une réponse collective au plan de restructuration proposé par Sébastien Lecornu. Ils ont salué l'initiative tout en pointant les insuffisances de ce plan, notamment le financement dédié aux collectivités et aux régimes sociaux.
La question des régimes sociaux, pour l'instant, reste non financée puisqu'on attend la question du financement de l'État. Le président du gouvernement, après avoir consulté l'ensemble des formations politiques et des institutions, a souhaité répondre à Sébastien Lecornu. Il y a des très bonnes choses dans le courrier envoyé par le Premier ministre. Il y a des choses qui sont incomplètes, qui méritent d'être précisées. Il y a des choses qui sont insuffisantes. Et notamment, le financement des collectivités et des comptes sociaux reste insuffisant à ce stade. Notamment, le fait de transformer les prêts en subventions à hauteur de 100 millions, c'est clairement insuffisant. Et surtout, on ne veut pas tomber dans ce qu'est tombée la France, c'est-à-dire d'emprunter pour rembourser sa dette. Ça serait la pire des mauvaises gestions et je ne veux pas faire ça. On espère avoir une réponse rapidement, mais à ce stade, en tout cas, je le confirme, il n'est pas question de rembourser les prêts si le financement des retraites et du RUAM ne sont pas assurés.
Le gouvernement organisera d'ailleurs ce vendredi un séminaire consacré au RUAM et aux retraites. Le budget sera quant à lui présenté le 22 décembre au Congrès. Les élus espèrent l'adopter avant le 30 décembre. En marche du débat d'orientation budgétaire, les élus ont aussi arrêté un projet de loi du pays. Elle est relative au droit du travail et à la protection sociale.
C'est une loi qui permet notamment d'avancer sur la présomption de démission puisqu'on voyait de plus en plus de personnes qui partaient et qui mettaient en difficulté les entreprises et également de lutter contre l'absentéisme avec la mise en place d'un jour de carence sur le versement des indemnités. C'est toujours dans la même logique du budget, c'est-à-dire d'aller faire des économies là où il y a un peu de fraude qui est réalisée ou des abus. Donc on est à la chasse aux économies et aux abus et à la fraude pour financer le budget de la Nouvelle-Calédonie.
Le projet de loi du pays a été envoyé au Congrès et doit maintenant être examiné en commission.
La Chambre territoriale des comptes a publié un avis budgétaire relatif à la commune de Marais. La commune doit une somme de plus de 35 millions de francs à la société Jean Lefèvre Pacifique pour des travaux de réfection de route qui remontent à 2023. Il s'agit d'une dépense obligatoire et non acquittée au budget 2025 de la commune de Marais, précise la Chambre territoriale des comptes, qui a par ailleurs pu constater qu'à la suite du vote de la décision modificative numéro 2 du budget 2025, voté en octobre dernier, la commune a ouvert suffisamment de crédits pour solder sa dette. Cet avis budgétaire a été rendu public par la Chambre territoriale des comptes dans la mesure où il ne figurait pas à l'ordre du jour du dernier conseil municipal de Marais le 5 décembre dernier. Les conseils municipaux de Nouméa et du Mont-d'Or se réunissent ce soir à Nouméa. Il s'agit pour l'exécutif de faire valider un certain nombre de délibérations que l'on pourrait qualifier d'affaires courantes. Au Mont-d'Or, une quinzaine de textes à l'ordre du jour, dont la décision modificative numéro 4 du budget principal de l'exercice 2025, mais aussi et surtout l'examen du budget primitif 2026 de la collectivité. Et notez justement que demain, notre invitée du matin sera Elisabeth Rivière, maire du Mont-d'Or. Elle sera dans nos studios à 7h30. Après l'abandon du projet de loi organisant la consultation anticipée des Calédoniens, Emmanuel Macron reprend l'initiative. Il invite les élus calédoniens le 16 janvier à Paris pour poursuivre le dialogue sur l'avenir institutionnel et pour apporter des clarifications sur l'accord de Bougival, Elisabeth Noir.
Pour le chef de l'État, il s'agit d'un point d'étape visant à ouvrir de nouvelles perspectives politiques. Mais il n'y a pas plus de précision et cette invitation a bien sûr suscité plusieurs réactions des groupes politiques, à commencer par celle des loyalistes qui ont écrit au chef de l'État en posant leurs conditions sur les objectifs de cette rencontre. Dans ce courrier, les quatre élus loyalistes signataires de Bougival, Sonia Backès, Nicolas Metzor, Gilles Brial et Brieuc-Frogier, écrivent à Emmanuel Macron que si les échanges qu'il propose pour le 16 janvier devaient avoir pour objet de revenir sur les équilibres politiques de l'accord de Bougival, alors les loyalistes n'y apporteront pas leur soutien. Ils ajoutent qu'ils n'apporteront pas davantage leur concours à des discussions qui aboutiraient à une nouvelle version du projet de Deva ou à tout autre dispositif qui viendrait encourager la cause indépendantiste. Il est inacceptable pour nous, écrivent-ils, que les concessions déjà consenties soient considérées comme de simples étapes préludant à de nouvelles concessions, a fortiori lorsqu'elles s'inscrivent dans un climat de chantage à la violence exercé par des indépendantistes radicaux dont les reniements successifs de leurs paroles démontrent qu'ils ne peuvent être considérés comme des partenaires fiables. Dans ce courrier, les quatre élus loyalistes attirent enfin l'attention du président de la République sur les prochaines échéances électorales. Ils rappellent que si le calendrier de mise en œuvre de l'accord devait être remis en cause, les élections provinciales se tiendraient avec un corps électoral gelé et ils affirment qu'ils s'y opposeraient alors de toute leur force. Réaction également ce soir de Virginie Rufnacht pour le groupe Rassemblement. Elle parle de réunion de la dernière chance et de nécessité absolue de se retrouver avec le président de la République.
Je considère que c'est la réunion de la dernière chance pour proposer aux Calédoniens un peu de visibilité sur leur avenir, c'est-à-dire un accord politique qui permet de dégager l'horizon. On ne peut pas rester ainsi jusqu'en 2027, on ne peut pas non plus avoir des élections provinciales sur un corps gelé, il n'en est pas question et nous ne l'accepterons pas. Donc ces éléments de démocratie sont fondamentaux pour les Calédoniens. Par conséquent, il y a une nécessité absolue à effectivement avoir des travaux avec le président de la République.
Le FLNKS, de son côté, a déjà une délégation à Paris conduite par son président, Christian Théin. C'est au retour de cette mission que sera prise la décision de répondre ou non à l'invitation du chef de l'État. C'est ce que nous a dit Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UC et porte-parole du FLNKS.
Au niveau du FLNKS, on a envoyé une délégation à Paris. Donc, ils sont actuellement en train de rencontrer les groupes parlementaires. Il y a une demande qui a été faite auprès de l'Élysée. Ça va être l'occasion, justement, pour le président et l'équipe qui l'accompagne d'éclairer un petit peu l'invitation qui nous est parvenue. En attendant d'avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur le contenu de la rencontre. En tout cas, nous, on a bien reçu le courrier d'invitation qui a été adressé au groupe, au congrès, hein. Donc, il y a une réponse qui va être faite à l'Élysée pour dire que c'est bien le FLNKS qui conduit les discussions sur l'avenir du pays. C'est pas au niveau du groupe au congrès, ça c'est une chose. Et puis qu'on attend un petit peu plus de contenu sur la rencontre qui est prévue le 16 janvier. Mais on se positionnera à l'issue du retour du président du FLNKS qui est actuellement à Paris.
L'éveil océanien, lui, se rendra à Paris parce qu'il ne pratique pas la politique de la chaise vide. Mais son président Mila Kouloutou-Koumouli s'interroge sur les objectifs de ce rendez-vous du 16 janvier.
Le président de la République convie les Calédoniens à Paris. Pour faire quoi? On ne sait pas trop. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on ait un consensus, soit sur un accord politique, Bougival ou autre, un vrai consensus, ou si c'est pas possible, mais qu'on ait un consensus sur un désaccord politique et que dans ces conditions, on convoque les élections provinciales. C'est pas ce que nous souhaitons. Mais à un moment donné, si on n'arrive pas à sortir le consensus sur un compromis politique, il va falloir retourner devant les urnes parce que ça va faire 7 ans que le mandat court. Et dans une démocratie, il faut laisser respirer les choses. Il faudra faire les élections et attendre une stabilité nationale pour reprendre le dossier calédonien.
Et Calédonie Ensemble, de son côté, nous a fait savoir qu'il s'exprimerait par le biais d'un communiqué.
À noter par ailleurs que, comme nous vous l'avions déjà annoncé, l'éveil océanien et Calédonie Ensemble constituent un intergroupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
C'est une conséquence de l'inéligibilité de Philippe Gomez et de Philippe Michel. Nina Julier, qui succède à Philippe Gomez, va siéger en effet dans l'intergroupe loyaliste. En conséquence, Calédonie Ensemble ne dispose plus que de 4 élus, alors qu'il en faut 6 pour constituer un groupe. Les élus éveil océaniens, qui ne sont que 3, siégeaient jusqu'à présent, quant à eux, en non-inscrits. Donc cela arrange tout le monde, puisque la constitution d'un groupe permet d'avoir des moyens, notamment en termes de collaborateurs. Il y aura donc désormais 6 groupes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le groupe UCF LNKS est nationaliste avec 13 élus. Le groupe loyaliste avec 13 élus également. Le groupe uni avec 12 élus. Le nouveau groupe, dénommé Intergroupe L'Éveil Océanien Calédonie Ensemble, qui compte 8 élus, et le groupe Rassemblement, avec 6 élus.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, le gouvernement a-t-il raison, selon vous, d'abandonner le projet de loi sur la consultation des Calédoniens faute d'une majorité au Parlement? Si vous pensez qu'il a raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il a tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 88% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'un renforcement législatif des Nakamal permettra d'éviter les trafics de stupéfiants ou d'alcool constatés dans plusieurs de ces établissements. Ils sont 22% à être d'un avis contraire. Autre rendez-vous sur l'antenne des RRB. Ne l'appelez plus ADECAL, mais GIP Technopole. Un changement des statuts adopté il y a quelques jours, mais qui ne change pas la vocation de cette structure, chargée de faire le lien entre la recherche, notamment sur la valorisation des ressources naturelles, et leur développement économique. Le GIP Technopole fait donc le lien entre le monde de l'entreprise, la recherche public et privé, l'enseignement supérieur et les pouvoirs publics. Nous en parlerons donc demain dans les Jeudis de l'économie avec son président Samuel Népéoun, avec un zoom sur la filière crevette. Nous serons en effet également en compagnie de Jean-Louis Chautan, le directeur de l'usine de Provendry Saint-Vincent, et Pascal Lepitre, directeur de la SOPAC, ou encore Chloé Sagliben du cluster Valoga. Il est 18h passé de 5 minutes. On va tourner une page de publicité dans ce journal avant de parler du plan de relance pour le secteur touristique en Calédonie. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Marlène Alma, Païta et Port-Plaisance, trois boutiques pleines de cadeaux. La parfumerie, la maroquinerie, la lingerie, le textile, Marlène, le seul plaisir d'offrir.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Vivez au rythme de Noël avec la ville de Nouméa.
Jusqu'au 23 décembre, un spectacle quotidien au kiosque à musique et un marché de Noël artisanal Place de la Marne, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat, feront vibrer petits et grands.
Le 24 décembre, le Père Noël arrivera à bord de son traditionnel char pour récupérer les clés de la ville des mains du maire.
Et jusqu'au 30 décembre, la fête de la lumière fera briller la place des Cocotiers tous les soirs de 19h à 23h.
Retrouvez le programme complet des animations sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons ensemble la magie de Noël.
Info soir, Mickaël Juneski.
Après plusieurs années de crise, la Nouvelle-Calédonie veut remettre le tourisme au cœur de son développement économique. Un vaste plan de relance a donc été présenté. Objectif, faire du tourisme un moteur durable d'emploi, de croissance et de rayonnement. Jean-François Baudin.
Ambition affichée pour 2032, accueillir au moins 250 000 touristes sur le territoire. Une année qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'en 2032, l'Australie accueillera les Jeux Olympiques à Brisbane. Un plan établi sur 7 ans et avec de nombreux chantiers à mettre en place. Pour y parvenir, la priorité sera de restaurer la confiance et l'image de la destination à l'international. Les efforts de promotion seront renforcés, notamment vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Les acteurs du tourisme proposent également de créer des offres vol plus hébergement à l'image de ce que fait Fidji. Un développement ambitieux mais réaliste qui doit toutefois être structuré, selon Christopher Gigès, membre du gouvernement chargé de l'économie et de l'attractivité.
Il faut qu'on ait à la fois une image de marque de la Nouvelle-Calédonie qui soit renouvelée. Donc on l'a dit, on veut aller chercher du tourisme d'affaires, des touristes à haute valeur ajoutée. Donc on commence déjà par les compagnies aériennes, c'est-à-dire qu'il faut plus de places en Nouvelle-Calédonie. On veut conforter Air Calin, mais il faut d'autres compagnies qui viennent sur le territoire calédonien. Il faut qu'on accompagne les hôtels à la fois sur les rénovations, mais aussi sur des nouvelles chambres pour atteindre l'objectif à 2032 et notamment travailler avec des grands groupes internationaux. En plus, ça fera de l'investissement et des travaux en termes de relance économique. Mais c'est toute cette partie promotion internationale ensemble et la vente de package ensemble et de promotion ensemble qui fera qu'on sera en capacité d'atteindre nos objectifs.
Pour mettre en œuvre ce plan de relance, il faut y consacrer un budget conséquent. Actuellement, 265 millions de francs sont accordés à la promotion internationale. 400 millions devraient l'être l'an prochain pour atteindre 1 milliard d'ici 3 ans. À titre de comparaison, la Polynésie française débourse déjà 1 milliard par an dans cette promotion. Parmi les investissements, le gouvernement entend relancer la construction et la rénovation hôtelière, soutenir les hébergements alternatifs et créer des zones franches touristiques pour attirer les investisseurs. Pour Philippe Fred Villers, le président de l'Union des hôtels de Nouvelle-Calédonie, les bases sont déjà posées.
On a les gens, on a nos employés qui sont déjà là, qui sont déjà formés, mais ils font former d'autres. Il faut faire une école d'excellence en tout cas pour ça, et que tous les hôtels suivent à peu près les mêmes formations, pour avoir un résultat global de chaque touriste qui soit pas dans un endroit et qui soit mal accueilli et bien accueilli ailleurs. Il faut, si on voit une destination, ou c'est une destination complète. C'est un peu prétentieux de dire qu'on veut du haut de gamme. Il y a des hôtels qu'il faut peut-être fabriquer en haut de gamme. Je trouve qu'on a déjà des très beaux hôtels. Il y a d'autres hôtels qu'il faut rénover, évidemment. Mais on a quand même ce qu'il faut.
L'autre enjeu majeur de ce plan de relance touristique, c'est évidemment l'accessibilité aérienne. Il prévoit une politique tarifaire plus volontariste, l'arrivée de nouvelles compagnies et surtout le retour des vols charter vers le Japon dès 2026, à raison d'au moins un vol par mois. La compétitivité touristique au travers d'une stratégie aérienne est une des missions de la CCI qui s'occupe également du volet formation. Charles Roger est le directeur général de la CCI.
Il y a un premier enjeu, c'est comment répondre aux attentes des compagnies aériennes, que ce soit Air Calin avec le développement de sa flotte. La 350 nécessite quelques adaptations sur l'aéroport qui sont en cours et qui seront bien mises en œuvre pour l'arrivée de l'avion. L'arrivée d'Air Cal à Tontouta, là aussi, nécessite l'évolution de nos équipements et de nos infrastructures et une coordination entre les opérations internationales et domestiques. Sur le volet accompagnement des porteurs de projets, on est là pour accompagner les prestataires touristiques, les gîtes. Et enfin, on est organisme de formation, à la fois en formation initiale avec nos CFA et notre école de gestion et de commerce. C'est comment monter des filières de formation qui répondent aux besoins des professionnels du secteur, et puis en formation professionnelle continue pour former les salariés des hôtels, des restaurants et puis des prestataires touristiques.
Une nouvelle marque touristique prochainement sera créée pour remplacer Pacific au cœur. Une consultation sera lancée auprès du public et des professionnels pour choisir l'identité qui portera l'image de la Nouvelle-Calédonie à l'international.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koné, c'est le 98.
L'actualité du nickel. La SMSP attend une offre dans les prochaines semaines pour la reprise de KNS. L'usine du Nord pourrait être reprise par un groupe chinois. Plusieurs industriels avaient manifesté leur intérêt pour racheter le site de Cognambeau, à l'arrêt depuis 2024. Le groupe indien qui s'était positionné et qui était venu sur le territoire ne va finalement pas donner suite à son projet de reprise. Et c'est donc le négociant chinois Li Jian qui est le plus avancé dans les discussions, nous a dit Karl Terbi, le PDG de la SMSP, qui était notre invité du matin.
C'est le groupe qui fournit le plus de travail. Ils sont déjà venus mi-septembre avec une vingtaine d'ingénieurs et toute la partie direction pour rencontrer toutes les parties prenantes du territoire, le gouvernement, la province, le congrès, etc. Ils ont renvoyé encore une vingtaine d'ingénieurs spécialisés dans l'usine métallurgique et la centrale électrique il y a une quinzaine de jours. Là. On attend une offre pour la mi-février qui correspond à peu près au nouvel an chinois. On sait qu'ils travaillent beaucoup sur la possibilité de reprendre le process actuel avec quelques modifications et quelques adaptations, mais la décision n'est pas prise. Après, on leur fait confiance parce que c'est un acteur métallurgique, ils font que du nickel. En Indonésie, ils font plus de 400 000 tonnes de nickel à eux seuls, donc c'est quasiment 10% du marché. Techniquement, ce sont des gens très compétents. La première idée qu'on a, c'est effectivement que le départ de Glencore puisse être acté rapidement, qu'on ait, nous, SMSP, un peu d'argent en attendant que Lightjand rentre officiellement et pouvoir déjà redémarrer la mine. Entre la remobilisation des gens, les réinvestissements qu'on a, etc., c'est 6 à 8 mois. Mais courant du deuxième semestre, on espère pouvoir relancer un peu d'emploi et de la mine sur Cognambeau avant de pouvoir relancer la métallurgie.
Avant l'arrivée d'un nouvel actionnaire, il reste à finaliser les conditions de départ de Glencore et notamment la somme qu'il laissera pour faciliter la reprise. Par ailleurs, Karl Terbi est revenu sur la situation de la NMC qui affiche une dette de 18 milliards de francs et qui était menacée de cessation de paiement à très court terme. Mais le PDG de la SMSP s'est rendu en Corée la semaine dernière et a obtenu un soutien de la part de l'usine.
Aujourd'hui, ce qu'on a négocié, c'est une solution très transitoire. On va vivre à crédit sur notre activité. Donc, c'est-à-dire que les bateaux que NMC est censé charger et envoyer en Corée du Sud sur le premier semestre vont être payés dès aujourd'hui, afin d'avoir suffisamment de trésorerie pour passer le mois de décembre et une grosse partie du mois de janvier jusqu'au 20 janvier à peu près. Mais ce qui veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution plus long terme et plus pérenne d'ici là.
Alors, quelles sont les solutions qui sont envisagées aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les syndicats qui avaient été reçus par le secrétaire général du Haut-Saraya, on leur a proposé un accompagnement technique. Donc effectivement, aujourd'hui, NMC, SMSP et POSCO, on travaille avec le CIRI, qui est le comité interministériel de restructuration industrielle, qui dépend de Bercy. On a déjà eu une première réunion avec eux, sur laquelle on a établi ce système de paiement d'avance. Et aujourd'hui, on refait un tour accompagné par le CIRI de nos banques classiques avant d'ouvrir potentiellement vers d'autres banques pour voir si on est capable de se faire refinancer.
Karl Terbi indique également que la situation en Corée est également moins favorable que les années précédentes en raison de la crise de marché du nickel, mais aussi de la flambée du prix de l'électricité. de l'écloserie à l'assiette. Que sait-on vraiment de la crevette bleue calédonienne ? C'est un produit d'exception que l'on retrouve sur les tables du monde entier et qui est pourtant assez méconnu. La médiagence Néocéan remet la crevette à l'honneur et lance aujourd'hui son magazine qui lui est entièrement dédié, Charlotte Coulson.
52 pages de crevette bleue calédonienne. En brochette, en curry, en carpaccio, à la vapeur, la Styliostris, c'est un produit de luxe que l'on connaît bien en Calédonie. C'est d'ailleurs en la voyant dans leur assiette que Guillaume Thérien, le fondateur de Néocéan, et sa rédactrice en chef Kenza Villard se sont interrogés. Où sont élevées les crevettes ? Quelle quantité est destinée à l'export ? Ils ont choisi de rencontrer pendant un an les acteurs de la filière et ont retranscrit cela dans leur magazine. Guillaume Thérien.
Comme le nom l'indique, finalement, on a été d'abord dans les écloseries. Donc, il y a 3 écloseries en Nouvelle-Calédonie, dont une qui est actuellement fermée. Et puis après, il y a 18 fermes aussi. Donc, on a été rencontrer certaines de ces fermes. Mais il y a aussi tout un écosystème derrière, parce qu'on a la PSOPAC, qui est aussi, on va dire, l'exportateur et le centralisateur de tout ce marché-là. Et puis après, il y a tout un tas de chercheurs de la science qui tournent autour, notamment avec l'UPRA Crevette, qui travaille sur la génétique qui a récemment été créée, ou encore des acteurs, voilà, de la recherche française. Je pense à l'IFREMER, notamment, qui travaille depuis des années dessus, mais aussi à l'IRD, à la CPS. Et à l'Agence Rurale aussi, qui sort un rapport économique. Bref, c'est un sujet qui concerne plus largement que nos assiettes, finalement.
1250 tonnes de crevettes bleues sont produites chaque année en Nouvelle-Calédonie. Presque 800 tonnes sont exportées, principalement vers la France, les États-Unis ou encore le Japon. La filière est donc porteuse et c'est aussi ce qu'a souhaité mettre en avant l'équipe de Néocéan.
Quand on est dans une situation économique comme la Calédonie la connaît actuellement, on se dit que c'est une filière historique et qui permettrait aussi de sortir un peu du tout nickel. Malheureusement, il y a encore pas mal de problématiques. On va parler justement dans le magazine, mais je pense qu'on aurait tout intérêt à continuer à poursuivre l'effort économique sur la crevette bleue et son export notamment.
Le magazine La crevette bleue de l'écloserie à l'assiette est gratuit et sera très bientôt distribué dans de nombreux commerces. Il est à déguster sans modération.
Il est 18h passé de 16 minutes. Une nouvelle page de publicité dans ce journal et on parle des premiers cadeaux distribués dans le cadre de notre opération au cœur de Noël.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Dès maintenant avec Google Pay, le paiement mobile débarque à la BNC. Enregistrez votre carte sur votre smartphone Android et payez avec votre mobile partout où vous allez. C'est simple, rapide et sécurisé. Vous allez adorer être client à la BNC. Plus d'infos sur bnc.nc. Banque de Nouvelle-Calédonie, siège social 10 avenue du Maréchal Foch, 98 849 Nouméa CEDEX, RCS Nouméa 74B047688, plus coût de connexion selon votre opérateur.
Global Parts à Ducos fête son premier anniversaire. Le spécialiste de la pièce automobile de qualité à petit prix fête ses 1 an et vous fait des offres encore plus folles. Pendant tout le mois, 30% de remise sur l'ensemble du magasin. Pièces, pneus et accessoires. En plus, rendez-vous dans notre magasin de Ducos et tentez de gagner un barbecue à gaz ou l'un des autres cadeaux en jeu. Jeu gratuit, sans obligation d'achat. Règlement complet sur place. Global Parts, le spécialiste de la pièce auto pour les pros et les particuliers. 30 rue Hervouet à Ducos. Plus d'infos sur notre Facebook Global Parts NC. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
À la Quincaillerie calédonienne, Noël rime avec belles affaires. Dremel, Karcher, coffret d'outillage, sélection Inco, 20 volts, nos promos de Noël vous attendent. Des idées cadeaux pour un travail précis, durable et inspirant. Quincaillerie calédonienne, 13 rue Ampère à Ducos ou sur Facebook.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Mickaël Juneski.
Au cœur de Noël avec l'OPT. Pour que Noël soit une fête pour tous.
Un goûter de Noël était organisé cet après-midi au dock de la Société Saint-Vincent-de-Paul, à Normandie. Plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement pour ce Noël des enfants jusqu'à 16h. Ils ont pu profiter de différentes animations, faire des photos avec le Père Noël, sans oublier la distribution de cadeaux. Pour nous en dire plus, Elisabeth Gault, la présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul.
Vous voyez, il y a du monde. Donc, grâce aux jouets qu'a collecté RRB, on va pouvoir offrir des cadeaux aux enfants gratuitement. Il y a un Père Noël, il y a des barbes à papa, des pop-corn, un centre de maquillage, des brioches, des boissons, des manèges, des chaises volantes, des châteaux gonflables, la pêche à la ligne, le jeu de massague. Il y a beaucoup de choses pour les enfants. Et là, je pense qu'ils vont être vraiment très heureux pour cette journée. On veut vraiment que les enfants soient heureux en ces périodes difficiles. On espère que les enfants, ils auront un petit moment de bonheur cet après-midi, les plus démunis.
115 enfants issus de familles démunies ont reçu des cadeaux de Noël offerts par l'opération Au cœur de Noël sur RRB, de la part également de la province sud de l'OPT. La réaction des enfants, mais aussi des parents qui étaient présents cet après-midi.
C'est très bien pour les enfants.
Déjà que ce qui se passe avec les hausses de prix et tout ça, c'est pas vraiment donné pour les cadeaux. Hein. Et on passe une bonne journée. Hein. Il y a déjà la pêche à la lune, le photo avec le Père Noël, château gonflable, dessin, atelier maquillage. C'est petit, mais il y a un manège.
J'ai fait la photo de Père Noël. Après, je suis venue dessiner.
Mais c'est bien pour les enfants. Ça les fait participer à des jeux et gagnent des cadeaux. Quoi.
C'est super, solidarité, tout. C'est très bien. Il y a un peu de tout, là. Il y a barbe à papa, glace pilée, pop-corn, brioche, poisson et la distribution de cadeaux gratuits.
C'est bien, on peut s'amuser, on peut manger, on peut boire. Je suis très contente.
D'abord, j'ai fait la photo avec le Père Noël. Après, là, je dois faire le dessin.
C'est bien, il y a beaucoup d'activités pour les enfants. C'est parfait. Malgré que le temps, mais voilà.
Qu'est-ce que tu fais ?
Un maquillage, un sapin.
Et des propos recueillis par Kelinda Boicou. À l'occasion des fêtes de fin d'année, la sécurité routière rappelle les dangers de l'alcool au volant. Il s'agit d'une période propice aux excès et qui entraîne parfois des accidents. Pour le moment, 33 personnes sont décédées sur les routes calédoniennes en 2025. Un nombre en baisse par rapport à 2023, dernière année de référence, puisque 2024 a été une année particulière en raison des émeutes. Nous recevions dans notre journal de midi le lieutenant Bertrand, officier adjoint sécurité des mobilités pour la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Comparé à 2023, nous sommes actuellement à une trentaine de morts sur la zone gendarmerie, sur nos routes, ce qui représente environ une baisse de 30% par rapport à 2023. C'est une baisse, donc forcément l'action de la gendarmerie, les actions de prévention sont notées et ont une incidence sur la mortalité. Donc ce sont des chiffres qui sont corrects. Bien évidemment, l'alcool et les stupéfiants sont présents dans plus de 50% des accidents, mais sans oublier la vitesse excessive et les distracteurs de conduite, c'est-à-dire le téléphone portable.
Et la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie annonce une vigilance accrue sur les routes en cette période de fête. La conduite sous stupéfiants et sous emprise de l'alcool sera particulièrement surveillée. Allons, on termine avec un mot de sport et du karting. Une première historique pour Raphaël Gilles, le jeune Calédonien, a brillé en Australie.
Oui, après un premier week-end encourageant, c'était début décembre lors du championnat d'État du Victoria, où il a terminé tout de même cinquième. Malgré une place longtemps promise au podium, le pilote calédonien a frappé très fort à Melbourne le week-end dernier. Sur le circuit de Todd Road, lors d'une course d'endurance d'1h15, Raphaël Gilles s'impose au terme d'une stratégie audacieuse et d'un relais de 40 minutes à très haut rythme. Il devient ainsi le premier Calédonien à gagner une course officielle sur le sol australien. Une belle performance avant le championnat national d'Australie qui aura lieu l'an prochain.
Merci Léo Fichou. Et puis un mot de planche à voile à Écufol avec Nicolas Goyard qui reste dans l'équipe de France olympique l'année prochaine dans la perspective de la préparation des JO de Los Angeles. Après sa participation au dernier JO, il a décroché cette année une 5e place aux mondiaux, un titre de vice-champion d'Europe, son 4e podium continental en carrière. Il demeure donc en équipe de France officielle pour la prochaine saison. 18h passées de 22 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, vigilance jaune, forte pluie, orage, des averses localement fortes sont attendues en soirée sur le nord-ouest, notamment au nord de Bouraille. Des pluies parfois orageuses persisteront également dans la nuit de l'extrême nord au nord des Loyautés, concernant Bélep, Poum, Ouégoua, Pouébo, Yengen, Ouvéa et Lifou. Cette nuit, des nuages accompagnés d'averses remonteront sur la pointe sud, la façade est et les Loyautés. De bonnes averses parfois orageuses concerneront encore la pointe nord, Ouvéa et Lifou. Sur l'ouest, les nuages et pluies de fin de journée se dissiperont progressivement, mais des averses parfois soutenues resteront possibles en soirée, notamment sur le nord-ouest. La lisée de sud-est mollira légèrement, soufflant entre 15 et 20 nœuds, et plutôt 10 à 15 nœuds sur le nord-ouest en seconde partie de nuit. Il restera un peu plus soutenu sur l'extrême nord-est. Les températures minimales évolueront peu, généralement entre 20 et 24 degrés. Demain matin, des averses persistantes circuleront encore du nord-est jusqu'à Marais et Ouvéa, sous un ciel bien nuageux. Sur la pointe sud, le passage d'une bande nuageuse apportera des averses éparses. Sur l'ouest, le soleil s'imposera plus largement avec un temps globalement sec. La lisée de sud-est se renforcera rapidement, soufflant entre 15 et 20 nœuds, avec des rafales proches de 30 nœuds attendues sur l'extrême nord et le sud-ouest. Et côté marée pour nos amis les pêcheurs, elle sera basse cette nuit autour de minuit 33, puis elle remontera pour atteindre sa pleine mer demain matin vers 7h24, avant de redescendre en début d'après-midi avec une nouvelle basse mer prévue à 13h21.
Merci beaucoup Pierre pour la météo à la technique, c'est la fin de ce journal.